Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est évidemment l'impact de la vague rouge américaine sur le reste du monde et spécifiquement pour la sphère émergente et encore plus spécifiquement pour le territoire africain. Nous en parlons avec un spécialiste de ces questions, spécialiste notamment de l'investissement en Afrique, Guillaume Arditi, qui est à nos côtés, fondateur de Belvedere Advisory et chercheur associé également à l'Institut Jacques Delors. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Bon, vos premiers commentaires à chaud sur l'implication des résultats de l'élection américaine pour la sphère émergente en général et l'Afrique en particulier.
Merci Grégoire. Je pense que il faut remettre un petit peu du contexte sur la politique étrangère américaine qui est moins fragmentée que la politique intérieure. Donc il y a quand même un accord bipartisan aux États-Unis sur deux points essentiels. Le premier, c'est sur le leadership américain. Donc il y a une volonté qui traverse tout le spectre politique américain de maintenir le leadership américain dans les affaires du monde. Le deuxième, c'est également unanimité sur le fait que depuis des années, le centre névralgique pour les États-Unis s'est déplacé de l'Europe vers l'Asie. Donc finalement, en termes de politique étrangère et de conséquences sur les différentes régions, le changement d'administration va probablement pas marquer une fracture monumentale sur les pays émergents. Ce que ça va probablement plus impacter, c'est la relation transatlantique. Mais en revanche, du point de vue des pays émergents, ce à quoi on peut s'attendre, c'est plutôt à un renforcement de leur poids dans un contexte où l'ordre unipolaire post-guerre froide est de plus en plus remis en question.
Donc là, il y a une fenêtre d'ouverture pour les émergents qui s'agrandit encore un petit peu plus avec le retour de Trump et d'une administration républicaine et potentiellement d'un congrès républicain.
Je pense en fait c'est l'environnement géopolitique global qui est en train de pousser les pays émergents à nouveau sur le devant de la scène. Quand on regarde la situation des États-Unis, actuellement ils sont challengés sur toute leur zone d'influence
historique
ouais. et quasi vital. Donc c'est d'abord évidemment en Asie,
LATAM, ouais.
Forcément, avec les problématiques avec Taïwan.
D'accord.
En Europe, la guerre russo-ukrainienne, et avec un crantage là, qui vient de s'effectuer, puisque maintenant il y a des troupes nord-coréennes, donc on peut s'interroger si ça aurait pu être fait sans un accord au moins tacite.
De la Chine.
De la Chine.
Ah bah, oui.
Voilà.
Oui. C'est quand
même assez étonnant. Au Moyen-Orient, l'irrésolution du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies et qui s'ajoute à des catastrophes relativement récentes en Afghanistan et en Irak. Et on va jusqu'en Amérique latine où un des exemples quand même assez criant, c'est la position du Brésil qui, avec le président actuel, s'affiche de plus en plus auprès de Poutine et Xi Jinping à travers les BRICS, qui eux-mêmes se présentent comme une alternative à l'ordre établi américain.
Et donc, c'est le renforcement du Global South, comme ce qu'il faut imaginer, là.
Là, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a, il y a une évolution structurelle qui les pousse vers l'avant, parce que maintenant, les enjeux, en fait, fondamentaux dans la lutte d'influence, les vecteurs se retrouvent dans les pays émergents.
D'accord.
Et on revient un petit peu sur les problématiques un peu classiques, influence, matières premières, etc. Sauf que là, ça se précise, d'une part, évidemment, sur l'énergie, comme toujours, mais c'est le retour. Deuxièmement, sur tout ce qui est métaux critiques, d'accord, dans le cadre de la transition, dans la transition énergétique. Et puis, troisièmement, et là, c'est quand même la nouveauté qu'il y a depuis quelques années, c'est l'autonomisation des chaînes de valeur par rapport à la Chine. Donc cette autonomisation-là, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence? C'est qu'on ne va pas pouvoir réindustrialiser tous les secteurs dans des pays comme les États-Unis ou comme l'Europe, pour des problématiques de coûts. Donc la question, c'est plus le onshoring, c'est le friendshoring.
C'est ça.
Et donc dans le friendshoring, pour avoir des coûts qui soient encore...
Ce qui compte, c'est la maîtrise des chaînes de valeur. Ce n'est pas forcément la localisation des chaînes de valeur en tant que telles.
Et exactement. Ouais. Donc, par exemple, tout le raffinage des métaux critiques, quasiment géré par la Chine, 70-80%, je crois, de mémoire. Quand on considère sur même d'autres industries, que ce soit les véhicules électriques, etc., la question, c'est pouvoir rapatrier une partie des chaînes de valeur sur les territoires type États-Unis, Europe, et quand ce n'est pas le cas pour des problématiques de coûts, avoir des voisins bienveillants et amis avec lesquels le faire.
Je ne sais pas si Trump s'est beaucoup étendu sur l'enjeu stratégique américain vis-à-vis de l'Afrique pendant sa campagne électorale, Guillaume, mais dans le logiciel républicain ou dans le logiciel du leadership trumpiste aujourd'hui aux États-Unis, que peut représenter justement ce continent africain ? Vous en êtes un spécialiste, hein, c'est pour ça qu'on en parle aussi avec vous aujourd'hui, Guillaume.
L'Afrique va avoir une spécificité, c'est que ça reste la seule zone où le jeu est encore ouvert.
D'accord.
C'est-à-dire que quand on parle de l'Asie ou de l'Amérique latine, ouais, on est vraiment sur du défensif. L'Amérique latine en particulier, même si, par exemple, là, les Chinois viennent de lancer un projet pour un port en eau profonde au Pérou. Donc vraiment, dans une zone qui est traditionnellement sous une influence forte et très dominante américaine. Donc même si on voit ce type d'incursion, l'Amérique latine, ça reste une zone qui est très largement influencée par les États-Unis. En revanche, l'Afrique, on se retrouve avec un continent où il y a une multiplication des acteurs qui s'y présentent. Évidemment, la Chine, dont on parle depuis déjà longtemps.
Russie,
oui. La Russie, ouais. La Russie avec sa position toxique dans le Sahel à travers Wagner. L'Inde, la Turquie. Et puis là, très récemment, l'Arabie Saoudite qui annonce 40 milliards de dollars d'investissement sur l'Afrique.
Donc là, désolé pour le terme, mais là, il y a une vraie bataille géopolitique qui est beaucoup plus ouverte, comme vous dites, que les positions qui sont défendues par les uns en Asie ou en Amérique latine par les autres.
Oui, parce que là, pour l'instant, les positions ne sont pas figées. Il y a aussi d'ailleurs un peu une forme de pushback par rapport à la présence chinoise en Afrique qui est dans certains cas décriée, en particulier sur les problématiques d'endettement. Donc, ce qui d'ailleurs joue très largement en faveur aussi des pays africains qui eux, voient leur position de négociation se renforcer.
Bien sûr.
Et ils se retrouvent avec des problématiques qui répondent aux attentes fondamentales qui sont les métaux critiques. Et puis là aussi la possibilité de repositionner des choses.
Et pour les États-Unis dans ce jeu-là, enfin je veux dire, il y a un mouvement aussi des États-Unis sur ce territoire africain travers des entreprises, ils jouent aussi ce jeu-là.
Absolument, je pense qu'il va se renforcer. Donc ça avait commencé d'ailleurs. Il y avait eu un peu un push sous l'administration de Trump, ensuite qui s'est prolongé sous l'administration
Biden. Donc là aussi une continuité d'une administration à l'autre.
Et ce qu'on peut anticiper, c'est que ça va ne faire que se renforcer parce que l'intensification de la peut-être pas du conflit, mais en tout cas de l'opposition entre la Chine et les États-Unis, elle-même est en train de s'intensifier. Donc là, on voit d'ailleurs, il y a des exemples qui sont, je pense, parlants et symboliques. C'est que, par exemple, il y a au Ghana un projet de réacteur nucléaire modulaire, donc de petite taille, c'est toute nouvelle technologie. Il y a le développement d'un corridor ferroviaire entre la République démocratique du Congo et l'Angola, qui est une sortie sur l'Atlantique. Donc là, c'est pour relier les bassins miniers avec les métaux critiques sur la côte atlantique, avec une sortie sur les États-Unis. Et troisième point, qui est très récent, troisième exemple, c'est l'annonce qui a été faite par JP Morgan et Jamie Dimon il y a quelques jours sur l'ouverture de JP Morgan Chase en Côte d'Ivoire et au Kenya avec un plan de développement. Et ça marque vraiment une rupture par rapport à la crise de 2008 et au retrait.
Qui avait vu le retrait justement des grandes banques, on avait parlé de ça pour l'Europe, mais des grandes banques américaines également.
Exactement.
Bon. Et l'Europe dans tout ça, enfin, je veux dire ces enjeux africains ou ces opportunités africaines, Guillaume, regarde le train passer ou est-ce qu'on a vu quand même l'enjeu et les opportunités que ça pouvait représenter?
Alors l'Europe, ça va être une grande question parce qu'en fait l'Europe fait face actuellement à des problématiques qui ne font que s'intensifier avec l'arrivée de Trump, qui sont des problématiques de souveraineté, énergétique. D'accord, aujourd'hui, on a remplacé finalement le gaz russe par du gaz américain, qui soit dit en passant, et du gaz de schiste. Voilà, bon, pointillé sur les problèmes de transition énergétique. Deuxièmement, pareil sur les problèmes de transition climatique. Troisièmement, souveraineté industrielle, également avec l'autonomisation des chaînes de valeur. et ce à quoi on peut ajouter, et là c'est un sujet qui va s'augmenter, la défense. Donc sur les trois premiers, on a le continent africain qui offre toutes les possibilités de partenariat possibles.
Ouais, je comprends. Il y a des réponses en Afrique pour les problèmes de l'Europe.
Il y a des réponses en Afrique pour les problèmes de l'Europe. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'Europe va continuer à regarder l'Afrique son... Il y a eu deux dimensions, en fait. Il y a eu la première, c'était la dimension aide au développement. Ok, très bien. Ensuite, il y a une deuxième dimension, ça a été Afrique potentielle, opportunité. L'opportunité, c'est une option qu'on exerce ou pas. Bon, visiblement, en Europe, on a quand même
pas précipité.
Décidé de pas trop exercer l'option.
Ouais.
Maintenant, il y a peut-être la troisième option, qui est la troisième dimension, qui est le bon sens. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un continent de 1,5 milliard d'habitants demain, qui est notre voisin.
Pragmatisme.
Ouais. Et je trouve que il y a... Là, je relisais le rapport Draghi, il y a une phrase que j'ai trouvée particulièrement marquante et qui, à mon sens, résume bien la situation. Alors, en substance, ça disait quelque chose comme il faut abandonner l'illusion selon laquelle la procrastination permet de préserver le consensus.
Ah, oui, ça, oui.
Je pense que tout est là.
Le statu quo, effectivement, n'est plus une option possible. Le statu quo qui se transforme d'ailleurs en paralysie de plus en plus de l'Europe. On a essayé, certains ont essayé la sortie de l'Europe, ça a été un désastre. Aujourd'hui, on passe du statu quo à la paralysie, ça ne semble pas être une option soutenable à terme. Et donc... reste l'option d'une vision stratégique et d'une intégration plus poussée.
Et d'un passage à l'action.
On restera sur ces paroles. Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume Arditi, fondateur de Belvedere Advisory et chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.